Elle commence, je dirais, par un ensemble d'envies individuelles qui sont devenues une envie collective.
Je dirais, politiquement, ça vient plutôt d'un sentiment de révolte par rapport au monde dans lequel on évolue.
C'est vrai que c'est un lieu de vie expérimentale dans un monde qui est en train d'évoluer et en prenant en compte les différentes dimensions sociales, environnementales.
C'est l'envie de faire mieux, l'envie de faire quelque chose de communautaire, l'envie de faire quelque chose d'égalitaire et l'envie de faire quelque chose de créatif, d'amusant, dans lequel tu peux essayer des trucs.
Ouais, moi, je crois que c'est juste mon projet de vie. Et c'est plutôt juste venir voir à quoi ça ressemble pour se faire une idée.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, Sarah Lefebvre.
Commun, commune, épisode 2.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Bonjour à tous. Cet épisode commence par une énigme, la plus grande de notre temps, disait l'économiste américain de la fin du 19e siècle, Henry George. À cette époque, industriel par excellence aux États-Unis, George ne comprenait pas comment l'extrême pauvreté pouvait-elle encore naître et grandir dans un tel siècle de progrès. Dans son livre « Progress and Poverty », vendu à l'époque à plus de 3 millions d'exemplaires, George va alors développer l'idée que tout le mal revient à la propriété privée, qui a monopolisé la terre et ses ressources naturelles, privant ainsi le plus grand nombre de son outil de travail et de développement. Très vite, sa pensée fera des émules et des disciples de George vont imaginer des communautés foncières, expérimentales, où la propriété fondée sur le travail est collective parce que la terre est un commun. Cette semaine, pour la suite de notre voyage à la rencontre de tous ceux qui justement cherchent à faire commun, on va suivre Sarah Lefebvre, cette fois en Belgique, à Bruxelles. Là où depuis 2013 sévit un collectif hyperactif et créatif, une association à but non lucratif, ou ASBL, qui à sa manière marche dans les pas du vieux George. Son nom, Communa, sa méthode, occuper légalement et temporairement des espaces vacants pour en faire des lieux de vie, de partage, de solidarité, mais aussi de logements abordables. Dernier lieu en date, un surprenant ensemble de 3000 m², jadis siège d'une entreprise privée située dans le quartier de Forest. C'est là que Sarah a débuté son périple de lieu en lieu commun.
Je peins le contour de la porte de garage pour que l'entrée soit pimpante pour la fête.
Pour la kermesse.
Pour la kermesse, ouais. C'est bien ça.
Et c'est du orange alors ?
C'est du orange bien pimpant, étant donné que le bâtiment est assez triste tel qu'il est aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait mettre des touches d'orange un peu partout pour le rendre un peu plus vivant.
Donc c'est le nouveau lieu communal.
Oui, c'est une occupation temporaire qu'on a conventionnée il y a 2-3 mois de ça. Et que là, depuis cet été, on a commencé les travaux de réhabilitation, donc de remettre le lieu en forme et en normes. Et depuis lors, parallèlement à ça, on fait un travail pour rencontrer les associations de quartier, les habitants des alentours, pour petit à petit définir la programmation du lieu futur. Du coup, de ce qui se dessine à présent, c'est qu'il va y avoir différents axes au projet. Il y a un axe d'activité pour le quartier. Du coup, là, ça va principalement être des activités sportives, des activités de rencontre pour les jeunes, des espaces de rencontre et de création pour les femmes et les filles du quartier. À côté de ça, il y a notre espace de travail partagé qui va déménager. Et du coup, là, c'est un bureau partagé pour plein d'associations et de collectifs différents qui font plutôt du travail de bureau, pour le coup. Et un troisième axe, c'est le logement, où il va y avoir une communauté d'une quinzaine de femmes qui va s'installer ici et créer un habitat groupé.
On va voir.
Complètement.
Donc on est dans la cour intérieure, on a passé une grande porte blanche et il y a un espace extérieur qui est très grand quand même. avec un arbre à notre droite. Il y a même deux arbres. Donc là, on est à l'ombre des arbres. Derrière, il y a les grands bâtiments qui font plusieurs milliers de mètres carrés. Et pourquoi une fête, enfin une kermesse en l'occurrence ?
Pourquoi une fête ? On fait ça à chaque ouverture de lieu. Parce que c'est la manière peut-être la plus joviale en fait, de se rencontrer et de permettre aux gens de franchir le pas de la porte sans être intimidés par ce qui est en train de se passer. Et c'est selon nous une bonne manière de se rencontrer une bonne première fois. Et du coup, oui, là, on est en train de faire des préparatifs parce que le lieu jusqu'ici, il n'y a aucune installation. Enfin, on commence les travaux mais il n'y a encore aucun aménagement qui a été fait. Donc, le pari, c'est de le rendre agréable et jovial en l'espace d'une semaine, en fait.
Ok, donc rapidement, quoi.
Oui.
J'essaye de coller le mot, mais ça ne veut pas coller.
Donc là, tu es en train de coller une phrase. Ce lieu est en train de se...
mettre en place, étape par étape.
Ça, c'est la ligne du temps, Louise.
Oui, c'est ça. C'est pour parler de l'évolution du lieu, de ce qu'il y avait avant et de ce qu'on va faire dedans, un peu temporaliser le truc. Et de montrer aussi que c'est un lieu temporaire qui va être fermé, enfin qui va être rendu à la commune en 2022.
Voilà. Et alors la première étape,
c'était fin 2018, l'entreprise privée qui était là est partie. Et donc a laissé ce bâtiment vide et immense sans fonction. En décembre, la commune de Forêt est propriétaire des lieux et en avril a lancé un appel à projet. Août, c'est la remise en fonctionnalité, on va dire, enfin, de rendre le lieu fonctionnel en termes de normes, d'accessibilité et tout ça, par l'équipe technique de Comuna. Septembre, il y a des visites, on a engagé quelqu'un pour la gestion spécifiquement de ce lieu-là et pour savoir quel projet on va implanter dedans. Dont cette petite kermesse aussi inaugurale pour un peu justement fédérer des gens autour de tout ça. Octobre, on définit plus la programmation avec quelles personnes doivent intervenir et pour quel public et avec quelles actions. Et puis donc ça va, il y a plein de choses qui vont se passer entre temps, mais 2022, nous, on doit rendre les lieux à peu près comme la commune de Forêt nous les donne aujourd'hui, quoi. Voilà.
Là, le projet, il est en train d'être monté. Donc, si ça se trouve, il va encore évoluer au fur et à mesure des prochaines semaines. Mais on est en train de concevoir le projet avec la plateforme citoyenne bruxelloise, donc qui trouve des solutions de logement pour les personnes réfugiées. À côté de ça, avec Angela D, qui est un collectif de femmes qui porte une vision du logement dans un prisme féministe. La volonté, c'est de créer une communauté de 15 femmes qui, à côté du projet de logement, s'accompagne dans un projet de, comment, j'aime pas ces termes, mais d'insertion plus globale. Notre volonté, c'est de permettre également à la personne de développer un réseau social et un environnement stimulant, dans le sens où il y a plein d'activités et de curiosités qui peuvent se présenter pour permettre à la personne de développer de nouvelles compétences, de s'intéresser à une nouvelle activité. Et dans ce cadre-ci, dans le prisme féministe aussi, de permettre à la personne de réacquérir une certaine confiance en soi et une volonté en fait, de s'affirmer au sein de la société.
Donc défendre la réinsertion par le logement.
C'est ça, en décloisonnant sur tous les secteurs. Qui aujourd'hui, l'insertion, il y a l'insertion sociale, l'insertion par le logement, l'insertion professionnelle. Ici, le pari, ce sera de rapprocher ces différents secteurs et de les faire travailler ensemble. Et de permettre à la personne de se créer un projet de vie, en fait, qui dépasse largement la question du logement.
Pour nous, l'occupation temporaire, c'est un moyen de répondre aux besoins urgents de la ville. Un des besoins urgents de la ville, c'est de loger les personnes qui sont à la rue. Il y a une asso à Bruxelles qui fait un recensement. Il y aurait 800 personnes de manière permanente à la rue. Je pense qu'en tout, ça touche les 4000. Mais je veux dire, reloger 800 personnes dans une ville d'un million et demi d'habitants, j'ai vraiment l'impression de voir un manque de volonté politique.
Je m'appelle Dimitri, j'ai 27 ans et demi et j'habite à Bruxelles.
Et Dimitri, tu fais partie de l'équipe qui a fondé Communa.
C'est ça, exactement. Je suis un des cofondateurs. On parle souvent de la crise du logement à Bruxelles, mais en fait, ce n'est pas une crise du logement. On oublie toujours un mot avec ça. C'est une crise du logement abordable. Il n'y a plus rien pour des familles qui gagnent, en l'occurrence, bien leur vie par rapport au revenu médian. Le loyer médian a augmenté de 25% à Bruxelles dans les 10 dernières années et le revenu médian, je pense, de 7% ou même pas. Mais donc, il y a un différentiel qui est fou parce qu'on a décidé de laisser au marché le fait de se loger. Moi, le plus gros problème que j'ai avec le droit de propriété aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait un rapport de force disproportionné avec des droits fondamentaux tels que le logement. Donc aujourd'hui, l'État, et d'ailleurs il l'a très clairement inscrit dans la loi anti-squat, c'est pas OK pénalement de squatter, c'est tout à fait OK, c'est juste une amende, de laisser un bien vacant. Alors nous, on n'a pas du tout, vocation à apporter des solutions structurelles à ça. En fait, ce qu'on vient faire, c'est penser, dans les deux sens du terme. On essaie d'ouvrir des nouvelles perspectives et en même temps, on essaie de juguler un tout petit peu le flux, comme on peut, en offrant des espaces temporairement. On a 13 bâtiments, ouais, c'est ça, et il y a 50 personnes. Enfin, il y avait. On a fermé 15 appartements, là, il n'y a pas longtemps. Mais on va en ouvrir encore une grosse vingtaine dans la suite. Donc, il y aura normalement, j'espère, entre 60 et 80 personnes logées via nous. Ouais, c'est important.
Ah, c'est tout en haut.
C'est le grenier. Ça va?
Ouais.
Attention, ça glisse parfois.
C'est bon, hein, t'inquiète.
Ok.
Voilà. Alors, ma chambre, c'est un grenier, mais qui est très chouette. Il y a d'ailleurs un de mes amis qui dit que c'est une chambre poétique. Voilà.
Poétique.
Elle dit que c'est poétique parce que c'est, tu peux ouvrir la fenêtre et avoir une certaine vue, comme si tu peux être tranquille, faire tes réflexions, faire ce que tu as à faire sans déranger les gens qui sont en bas 5, eux ils te dérangent. Parce que moi j'entends pas les bruits qui viennent du bas. Quoi.
Et t'es sous les toits, on entend bien d'ailleurs la pluie quand même, quand il pleut tu l'entends d'ici. Ah,
ça fait plaisir moi. J'aime bien ça, je suis habitué à ça au Sénégal, sur le zinc, la pluie, et ça fait dormir ça. En été, c'est autre chose parce que c'est toute la chaleur descend. Mais n'empêche, ça va. Je pense que j'ai connu pire, donc ça va. Moi, je m'appelle Mustapha Koma. J'ai 29 ans. Je viens du Sénégal, je suis d'origine sénégalaise. Je suis arrivé en Belgique en 2018. Et depuis lors, voilà, j'ai passé quelques mois en tant que serial manager. Mais après, déménageur, je veux dire.
Serial déménageur.
Ouais.
T'en faisais beaucoup.
Oh là là, à un moment donné, j'en pouvais plus.
C'est quoi le bruit?
C'est le truc là.
C'est quoi ce truc là?
C'est une alarme.
Ah, okay.
Pour le gaz, quand il y a. Parce que c'est un vieux bâtiment, donc. Comina a fait le nécessaire pour qu'on puisse le sentir quand ça vient. C'est la sécurité, voilà. Après, voilà, c'est quand j'ai rencontré Comina que j'ai pu me poser et depuis lors, ça va. Et donc, voilà, ça fait 2 ans que moi je suis là. Une maison très, très chouette. La maison des dépenses, c'est une maison où il y a 5 personnes de différentes cultures, différentes nationalités. C'est une communauté très soudée. Il y a moi, il y a Ling, il y a Larissa qui est une Tchétchène, il y a Gaël et César.
Comment t'expliquerais à quelqu'un qui ne connaît pas, en tout cas, ce que c'est que Communa?
Communa, je dirais, c'est une ASBL qui récupère des bâtiments non habités dans Bruxelles et qui essaie de mettre à disposition des nécessiteux. mais au-delà d'une ASBL, c'est un écosystème. Quand je dis écosystème, c'est au sens plus large du terme, qui réunit des gens qui partagent les mêmes valeurs, des valeurs sociales, des valeurs interculturelles, des valeurs politiques. Il y a toute une équipe, et je sais que dans l'équipe, il y a pas mal de gens qui ont une valeur qui est un certain ruissellement économique. Un certain ruissellement économique, c'est que tout le monde doit pouvoir vivre de l'économie du pays. Il y en a même des anarchistes, on va dire, qui sont beaucoup. Donc voilà, la ville nous appartient, le pays nous appartient. Que tout le monde puisse vivre dans ce pays sans pour autant avoir à se stresser autant comme ça se passe aujourd'hui, quoi. Donc la politique doit penser à la communauté d'abord. Quand on dit communauté, c'est dans le sens large du terme. Que ce soit quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui s'est installé en Belgique ou un Belge, un Belgo-Belge. C'est tout ça que Comina réunit. Il y a beaucoup de bâtiments dans Bruxelles qui ne sont pas habités. Au lieu de laisser ces bâtiments vides, mieux vaut le mettre à disposition des gens qui en ont besoin. Donc Comina, c'est une organisation qui se bat pour que tout le monde puisse avoir un toit.
Maxime Zaïd, donc cofondateur de Comuna, c'était quoi le projet politique au départ? Vous rêviez de quoi?
Nous, donc il y avait une partie de la team des fondateurs qui étaient des étudiants en droit. Il y avait certains qui avaient une expérience dans des mouvements de jeunesse et donc de l'organisation collective. Et je crois qu'il n'y a personne qui était étiqueté X ou Y politiquement vraiment ou qui était militant dans un parti, certainement pas. Et je crois que c'était se dire, mais c'est terrible en fait. Ce qu'on nous vend comme option, c'est réussir des études pour avoir un métier stable dans lequel tu peux faire plein de fric pour t'acheter une grosse voiture et une villa piscine ou un truc dans le genre. Et c'était genre, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ces perspectives? Et puis on s'est trouvé autour de ce projet d'habitat groupé et ça nous a structuré notre petit collectif de départ. On voulait louer quelque chose et en fait c'était super difficile pour 5 étudiants de louer un truc en disant que tu vas faire de la vie en communauté. La vie en communauté, je me rappelle un propriétaire assez sympa qui nous avait dit franchement, là, il vient d'avoir un couple avec 3 enfants et en fait, ça me rassure tellement plus de prendre eux que vous, même si j'aime bien votre idée de projet. Mais vous, vous me dites que vous allez vivre en communauté, à tous les coups, je vais arriver, tous les murs seront peints en verre et vous serez sous LSD. Je me rappelle, il avait dit ça et on était là genre, c'est pas ça nécessairement la vie en communauté. Et donc, louer quelque chose, c'était dur. Et donc, en regardant ce qui se faisait, on avait rencontré les squatteurs et les occupants temporaires. On disait, mais pourquoi est-ce que tu casse la porte si au final tu négocies un contrat d'occupation et que le propriétaire accepte. Ça veut dire s'il accepte, c'est que c'est pas si con comme offre, c'est que c'est quand même intéressant pour lui. Donc est-ce qu'on peut pas sauter l'étape de cassage de porte pour juste proposer au propriétaire effectivement d'occuper son bien le temps qu'il obtienne ses permis ou qu'il ait l'argent pour faire les travaux ou je sais pas quoi. Et tout le monde nous disait ça va jamais marcher et tout. Et nous on a dit on lâche pas l'affaire, on va le faire comme ça. Donc on a créé l'association, on a déposé les statuts, tout ça. On a organisé des tas de rencontres avec des pouvoirs publics en leur disant « Hey, il y a plein de bâtiments vides, on le sait, on vous propose de les occuper temporairement. Pour vous, c'est intéressant parce que vous avez quand même une mission d'utilité publique sur votre patrimoine, vous ne pouvez pas le laisser pourrir comme ça. Nous, on propose de loger des personnes, de loger des étudiants, de vivre en communauté et d'organiser des activités ouvertes sur le quartier. » Et ils nous disaient tous « Ouais, super idée, on vous rappelle. » Et ça, sans aucun résultat. Et donc là, on a commencé à faire un peu du squat aussi, parce qu'au bout d'un an, on se dit « Ok, les squatteurs ont raison, ça ne marche pas sans rapport de force. » Donc on a commencé à faire du squat. Et puis dans cette période un peu trouble, on a eu la proposition d'un propriétaire privé, auquel on n'a même pas cru jusqu'au dernier moment, qu'on avait 20, 21 ans. C'était un truc ridicule comme ça.
Archive Télé Bruxelles 2014.
Vivre dans 7000 m² au Triomphe 3. Autrefois siège de la Western Union, l'immeuble est occupé aujourd'hui par plusieurs ASBL et des artistes, mais aussi par une petite quinzaine de jeunes, donc beaucoup d'étudiants, qui y habitent depuis environ 6 mois. À l'origine, un constat. Se loger sans l'aide de ses parents quand on est étudiant est quasi mission impossible, alors que dans le même temps, des milliers de mètres carrés sont toujours inoccupés dans la capitale. À quelques-uns, ils ont créé l'ASBL Comuna pour lutter contre les logements vides et ont trouvé ce bâtiment temporairement inoccupé en attente de rénovation.
Dans la cave, il y avait genre des coffres. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment des coffres-forts, mais tu as le gros immeuble avec le siège de grandes marques multinationales. Oui, c'était impressionnant comme endroit. Mais puis en arrivant là, ça a donné un coup de boost invraisemblable parce que nous, on étudiait sur le côté, c'était un peu notre hobby. Et là, en un coup, on a fait grandir cette communauté. dans cet immeuble de fou où nous, on vivait sur un plateau. Et dans les autres, il y avait des étages pour des ateliers d'artistes qu'on a mis à disposition. Il y avait un skatepark qui a été construit. Il y avait des fêtes gigantesques, des expos. Il y avait une table d'hôte hebdomadaire. Il y avait un collectif de personnes sans papier qui faisait de la récupération alimentaire, qui organisait une table d'hôte hebdomadaire, prix libre. Et puis, bah, en fait, tous ces gens, on s'est rencontrés, ça s'est mélangé. Et quand l'occupation s'est terminée, ça a été très vite, ça a duré 8 mois. Quand ça s'est terminé, on a vidé le bâtiment et on a cherché un autre lieu. Et de nouveau, on a passé un été, en plus en tant que collectif, à essayer d'ouvrir des lieux, soit conventionnés, soit en squat. Mais on voulait continuer quoi, l'aventure. Et après quelques mois de squat gauche-droite, on a eu une nouvelle convention d'occupation temporaire dans une villa énorme à Uccle. C'est dans Bruxelles, mais c'est les quartiers très huppés de Bruxelles. Et donc, on était dans un endroit particulièrement riche, où on était vraiment les bizarroïdes du quartier. Et là, on a vécu presque à 20 personnes dans cette villa. Il y a des enfants qui sont nés. On avait des poules, des moutons. Et parfois, quand on parle de questions de gentrification dans l'occupation temporaire, j'aime bien dire aussi que l'occupation temporaire, c'est aussi un moyen de dégentrifier, quoi. Il y a Booba qui dit « Quand je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. » C'est vraiment ça.
Donc Joséphine, là on est jeudi et dimanche il y a une grosse kermesse que vous préparez dans le nouveau lieu que vous allez ouvrir.
Ouais.
Et là il faut que tu trouves du monde pour tenir le bar.
C'est ça. Moi je suis en charge de tout ce qui est boissons et nourriture, donc il y a plein de stands. Et pour cette buvette, on m'a conseillé d'aller rencontrer les seigneurs de forêt qui ont l'air d'être bien organisés et qui seraient a priori motivés pour faire du bénévolat derrière ce bar pour la journée.
Bonjour.
Non, c'est vraiment les meilleures parties du projet là, ce moment-ci, parce qu'il n'y a encore rien de défini, tu vois. C'est
il y a tout
est encore possible et c'est les premières rencontres, donc tout le monde est hyper enthousiaste, il y a encore beaucoup d'énergie. Les gens, enfin, ils voient, et nous aussi d'ailleurs, hein, ce nouveau lieu, on a plein de rêves et on veut que tout soit fait comme ça, mais en fait, quand tu montes un lieu à plusieurs, en communauté, bah, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et il y a des gens qui, voilà, qui perdent un peu en motivation dans ces zones-là. Mais on n'y est pas encore, là on est dans le feu, le tout début, le rêve.
Et toi Joséphine, tu as quel rôle au sein de Comuna ?
Moi à Comuna, je suis coordinatrice d'un lieu, et c'est une petite partie de ce que je fais. Sinon, je travaille beaucoup à notre gouvernance en interne, donc comment est-ce que on s'organise entre nous, on est une équipe de 15 personnes maintenant. Il y a 3 ans, ils étaient 3, ça va vite. On grandit, il y a beaucoup d'enjeux. On travaille de façon horizontale. Toutes les décisions sont prises au consentement, en tout cas pour les grosses décisions stratégiques. Donc voilà, je travaille à essayer de trouver un peu des procédures pour que notre travail soit fluide et que tout le monde ait une voix dans l'avancée du projet. Et donc oui, le travail d'aller rencontrer les gens, de discuter, de s'adapter un peu aux envies de chacun, bah, c'est un des gros boulots ouais, à Comuna. C'est le plus fun aussi, je trouve.
Et du coup, le rêve pour ce lieu-là, c'est quoi alors ?
Ah, un lieu ouvert tout le temps, qui accueille tout le monde et qui soit gratuit. Enfin, un espace public en fait, mais un peu refuge en même temps. لو كنت غامض عيني أو تأخذني الأحلام من إيديا ونعلى ونحلق في السماء جديدة وننسى الوجايا
si loin, si proche. Écoutez, vous voyagez.
Bonjour. Alors les filles, dites-moi, oui. Bonjour.
On occupe le lieu 144.
Oui.
On avait le projet de travailler avec les seniors ici pour la buvette.
Bien sûr. Ah, c'est vous.
C'est nous.
Ah, alors, on les a. Vous en avez besoin de combien?
Bah, écoute, c'est de 11h à 18h.
Juan.
Ça dépend en fait.
Juanito. Bonjour Juan. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre ce dimanche pour tenir un bar?
Je serai là.
Oui.
C'est quelle heure tu
as? Tu peux peut-être écrire
non.
Pour Juan.
Oui, tu peux le noter.
Est-ce que je peux avoir un moyen de te contacter?
Et si, 0474.
Ça, il aime bien donner son numéro.
53. Et votre nom, c'est?
Joséphine.
Pardon?
Joséphine.
Ah, Joséphine Baker?
Non, c'est pas moi.
Dommage.
À Bruxelles, avec le collectif communal, le système D est définitivement la règle. Sachant que les lieux, portés par une jeunesse inspirée qui cherche encore à se faire une place en ville, font office de petits laboratoires de démocratie citoyenne et locale. Certains ont du temps, qu'ils en donnent. D'autres ont un bâtiment inoccupé, qu'ils le laissent. D'autres encore ont un projet lié à l'économie sociale et solidaire, qu'ils rejoignent le mouvement. Et c'est pareil pour la nourriture. Tous les habitants participent à tour de rôle à la mission de ravitaillement de la semaine qui se fait grâce à des invendus. Parce qu'il est possible de vivre et consommer autrement, même en ville.
Alors là, on est plus ou moins, enfin, en moyenne, on est 3 personnes à faire la récup du samedi. Donc la récup, c'est tous les samedis où on a un accord avec le Deleuze à Molière. C'est un magasin. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ça dans une autre occupation de Comuna, le 73. Et c'est là où on fait une épicerie solidaire pour le quartier. Et les gens de Comuna ont aussi accès à cette récup aussi.
C'est pour nourrir toute la communauté.
C'est ça, on essaie de répartir. Et après, ce qu'on fait, c'est, en tout cas pour l'occupation des deux ponts, quoi, la rue des deux ponts, voir un peu ce qu'il y a et de faire avec. Ah, c'est ça que c'est dur.
Vous, Gaëlle et Ling, vous habitez ensemble?
Oui.
À deux ponts?
C'est ça.
Et est-ce que ça suffit, ces récup-lins, pour vous nourrir?
Oui, tout à fait. Mais ça n'empêche pas qu'on doit quand même faire des petites courses. Il faut quand même acheter, je sais pas moi, le lait, le riz, l'huile, les trucs de base, quoi. Mais le reste, oui, tout ce qui est frais. En tout cas, pour notre part, Gaëlle, je pense que ça fait 5 ans qu'on vit dans ce système. Ouais.
Fin du mois.
Ouais, fin du mois.
Fin du mois.
Ouais, je pense qu'il y aura du monde peut-être. Ouais, c'est le public qui vient au 73, en gros les gens du quartier, t'as un peu de tout. Y a beaucoup de familles qui viennent et il y a aussi des vieux aussi. Et il y a quelques-uns qui ont déjà fait la remarque que voilà, c'est... Ils apprécient beaucoup la récup parce que des fois, ils ont des fins de mois un peu difficiles. Donc, la récup permet de faire le pass, en fait, si tu veux. Et ça leur coûte rien en soi parce que toute la logistique, elle est gérée par nous. Il y a des autres collectifs qui fonctionnent un peu différemment. Il y a des collectifs qui fonctionnent avec des prix libres. Et pour ce projet-là, on s'est dit non, on ne va pas faire de prix libre.
Donc là, c'est gratuit.
Là, c'est complètement gratuit, ouais.
Il fait noir. On va la louper. Non, c'était là.
C'est que des grandes maisons en briques avec des beaux windows. C'est un beau quartier ici.
Ouais, c'est le quartier de Forêt. C'est un quartier assez résidentiel. Il y a un gros parc à côté. C'est très vert comme quartier. C'est chouette.
On va repasser là-dedans. On y...
Bonjour.
On fait un fil comme ça, c'est mieux, puis on n'a pas lancé tout le monde.
Avec... une chaîne.
Ça va, Linguini ?
Il fait chaud. C'est où les pâtisseries, là ?
Bah non, mais vous allez manger de la soupe de tomate, quoi.
Bah ouais, on va manger de la soupe de tomate. Bah, qu'est-ce que tu mets dans ton panier, Antoine ?
Bah voilà, c'est triste, on va devoir retourner acheter des choses. Mais parfois, on a des trucs comme ça. Des grosses caisses de soupe aux tomates, bio. À Pâques, on avait eu, je sais pas, 300 paquets de d'œufs en chocolat de super bonne qualité. Là, on a du jus de pomme.
Prenez tout.
Yeah. Du pain, ça c'est quoi encore ?
Du poireau.
Du poireau, ça. Un petit gâteau. Et ça, de la salade, et ça, aussi un petit gâteau.
Velouté de poulet.
Ça, c'est pas... ouais.
Et c'est à
trois.
Je veux bien un petit jus de pomme.
Ling.
T'es où ?
Je suis là.
Elle est où, notre caisse ?
Toi, tu prends ça, Cam ?
Voilà,
c'est
soupe. Voilà, soupe.
Bon, soupe. Et là, Antoine, du coup, c'est un autre lieu communa où vous habitez. C'est le 73.
Il fallait, c'est une maison qui appartient à la commune de Forêt. Et la commune voulait que ce soit un projet de quartier qui crée du lien dans le quartier. Donc, en gros, le premier et unique collectif qui s'est manifesté, dont je faisais partie, a emménagé dans la maison. Et on a quand même fait pas mal de boulot, de travaux. On a récupéré les sols, poncé, on a tout repeint, on a créé une salle de bain, on a créé une cuisine. Là, il y a un sauna dans le jardin. Ouais, tu pourras revenir si tu veux. Et voilà, et pendant 3 ans, on a organisé plein d'événements. Ça, c'est la récup qu'on fait depuis 2 ans et demi. Il y a eu des concerts, des cours, des ateliers parents, bébés. Il y a eu vraiment plein de trucs. On est 4 adultes et 2 enfants. Pour le moment, l'idée, c'est de faire un truc autour de la bouffe. Ça fait 3 ans qu'on fait un brunch une fois par mois sur le parking à l'avant. Et donc l'idée, c'est auberge espagnole sur la rue, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et puis alors, on pense organiser des tables d'hôtes. Et l'idée, c'est que ce serait qu'on puisse faire une proposition un peu plus concrète et dire, en fait, voilà, on va rénover un peu mieux cette maison, par exemple, poncer les châssis des fenêtres qui sont en train d'un peu pourrir, prendre un peu soin des gouttières, des toits. Donc, c'est des travaux un peu plus conséquents, mais de se dire... Et puis, surtout, avoir un projet qui est plus précis et plus, je pense, aussi intéressant pour la commune. L'idée, ce serait de faire une maison résiliente. C'est-à-dire, comment en ville, si un jour on est confronté à un truc comme l'effondrement, si un jour on n'a plus d'électricité, plus d'eau courante, comment est-ce qu'on peut faire un prototype ici de ce genre de truc ? Et donc, tu aurais une commune qui aurait un projet gratos, mais juste la maison à disposition qui était vide de toute façon. Et en échange, ils ont des gens qui font des expérimentations sur leur territoire. Et puis là, on leur dirait, bon, ben, si vous acceptez ça, vous nous mettez la maison à disposition pour 10 ans. Parce qu'il faudrait faire des investissements. Je ne sais pas, mettre une éolienne sur le toit, j'en sais rien, faire des trucs comme ça.
La Buissonnière, c'est l'endroit où habite une grande partie de l'équipe de Comuna.
Ouais.
Donc c'est un immeuble d'habitation en haut et en bas, comme beaucoup d'autres lieux Comuna, bureaux d'association.
Exactement. En fait, c'est une ancienne école, donc c'est plein de petites salles, plus ou moins grandes, avec une grande cage d'escalier au milieu. Et donc sur les 2 derniers étages, tu as 6 chambres où sont logées du coup en partie... des personnes qui font partie de l'équipe Comuna. Et aux étages du dessous, t'as des bureaux, des ateliers d'artistes.
Du point de vue extérieur, c'est vraiment aussi un immeuble, en fait, tout ce qu'il y a de plus classique à Bruxelles, en briques.
C'est ça, c'est l'immeuble typique bruxellois, sur une petite place avec plein d'autres bâtiments du même genre. C'est ça, c'est qu'on le remarque pas plus que ça. Mais c'est une belle maison en vrai, c'est une belle et grande maison qui va devenir du logement social avec des bureaux pour les travailleurs sociaux aussi dedans.
Vous pouvez habiter là jusque quand encore ?
Ben là, c'est jusque janvier 2021. À la base, c'était prévu pour un an. Et 3 ans plus tard, on est toujours là. Puis maintenant, ça va faire 3 ans et demi, du coup, en janvier. Et on sera encore prolongé. J'imagine qu'en octobre 2017, si on avait dit aux gens, voilà, c'est une occupation pour 3 ans et demi, ben, il y aurait eu un autre type d'engagement. Même de notre part, au point de vue technique, je pense qu'on aurait investi d'une autre manière dans le lieu. Forcément, quand tu te dis que c'est pour un an, tu fais pas grand-chose. Tu fais le strict minimum. C'est en train d'être vendu à l'agence immobilière sociale de Saint-Gilles. Mais eux, il leur faut des permis ensuite urbanistiques pour pouvoir mettre en place leur projet de logement pour le lieu. À mon avis, on est là pour en tout cas encore un an, voire deux. Donc on pensait rester un an. Puis j'imagine que 5 ans plus tard, on me dira qu'on est toujours là. C'est super. Puis en même temps, c'est aussi un peu précarisant. J'ai essayé plusieurs fois de l'exprimer auprès des propriétaires, mais c'est compliqué pour eux. Je ne sais pas, je leur ai proposé des prolongations à durée indéterminée, avec un préavis. Mais ouais, y a une sorte de frilosité quand même de la part des propriétaires à dire oui sans date limite. En tout cas, pour moi, ce que je vois pour le futur, c'est vraiment des lieux plus pérennes. En avoir moins, mais pour plus longtemps. Je pense que pour le moment, on travaille à être capable, dans le futur, d'ouvrir un lieu de grande ampleur, en fait, et de faire du logement à grande échelle.
On vient tous de finir de manger là.
Ah,
mais
j'arrive.
Mais
c'est pas fait comme ça, je me sens moins coupable que je mange. Ça c'est quoi ? Jamais vu.
Non, mais j'arrive pas de me tromper avec cette date.
Voilà madame la tomate mozzarella. Wow. Ici vous avez les différentes huiles, les différentes graines possibles.
Ah,
le cottage.
Le petit théâtre ici.
Le petit théâtre.
Je suis arrivé il y a presque un an, un petit an et demi, quelque chose comme ça. Depuis que je suis arrivé, on a toujours été 5 mecs, avec plus les copains et copines, mais en tout cas en tant qu'habitant, 5 mecs. Là tout récemment, il y a Agathe qui nous a rejoint. Et en fait, clairement, je pourrais pas avoir la vie que j'ai si j'avais pas accès à cette chambre, à cet espace.
Qui es-tu, Pépé ?
Alors, je suis graphiste de jour, danseur de nuit et artiste du lendemain. J'ai un petit mi-temps de graphiste qui me permet du coup de payer mes factures. Donc pour un régime de 21 heures par semaine, je suis à genre brut, peut-être 1100, 1200, ce qui fait un petit net d'un peu plus de 1000 euros. Cette chambre, elle a 175 euros de contribution, charge, électricité, internet, tout ce que tu veux, toi. Et en plus de ça, chacun des habitants de la Buissonnière met 25 euros pour l'achat des affaires en commun, que ce soit lessive. Mais voilà, en fait, c'est ça aussi, il y a ce truc où, avec 1000 euros au moins, malgré la contribution que je dois payer chaque mois pour l'espace ici, et au final, la récup, la bouffe qui au final me coûte plus rien, enfin me coûte rien, bah, chaque fin de mois, j'ai toujours jamais de thunes.
Est-ce que la mise en commun des choses, pour toi, c'est quelque chose qui répond à tes besoins uniquement, ou c'est aussi un positionnement et un mode de vie que tu as envie de choisir?
Ah non, c'est
en accord avec des idées.
Allez, c'est clairement, c'est plus idéologique, tu vois, c'est plus une philosophie de vie, quoi. Genre, le lieu, la buissonnière, le bâtiment, c'est une communauté. Il faut savoir que le frigo ici, il est open source depuis que je suis arrivé. Du coup, si tu t'achètes des trucs, tu les laisses au frigo, bah, tu les laisses en open source, quoi. Alors après, est-ce que cette idée de vivre en communauté que tu as, où tu t'imagines ces gens qui partagent tout, leur bouffe, leur lit, leur... Enfin, je pense qu'il faut de la nuance aussi là-dessus. Parce que comme je te dis, enfin, moi, je le vois avec mes colocataires, tu vois, genre, c'est intense, il faut savoir le porter, hein. Tu sais, quand j'entends Max et Sam, ça fait quoi? Ça fait 7, 8 plus qui suivent ce mode de vie. Moi, je débarque là-dedans, ça fait à peine un an et demi, tu vois. Et en plus, sachant qu'ils n'ont pas du tout le même statut que moi, c'est eux, enfin, ils sont l'initiative du projet, tu vois. S'ils ne sont pas là, le truc, il ne prend pas. Après, c'est beau, tu vois, c'est super beau. C'est un choix, clairement, mais tu peux très bien être proche des gens sans pour autant devoir tout leur donner, sans pour autant te laisser aucun espace pour toi-même.
Vous êtes voisins, vous habitez le quartier?
Je vis dans ce quartier.
Ah, bon, bah c'est bien.
Mais je vis à l'étranger, je suis revenu il n'y a pas si longtemps que ça.
Ok, est-ce que tu connais l'ASBL Comuna?
Oui, mais il y a un appel à projet ici en fait.
C'est ça.
Et j'ai déjà déposé un projet en fait.
Ok.
En fait, je compte faire un café-théâtre avec une section audiovisuelle, formation, montage, caméra, mise en scène.
Yes.
Moi,
bravo.
Je suis à l'école là. Mon père avait un commerce pendant 20 ans ici.
Okay.
Ils habitent encore là, d'ailleurs.
Ouais.
Et voilà, maintenant, on amène...
Ok, oui.
Super, bah, ça fait
trop plaisir. Bienvenue, alors.
Merci.
Après, tu rajoutes un peu.
Oui, c'est pour moi, j'ai l'impression que je vois une ville, une petite ville ici à l'intérieur. Oui, c'est qu'on peut tout rassembler, tous les forestois, ils sont rassemblés ici. C'est impressionnant.
Moi, j'habite dans le quartier, donc depuis toujours. Ça fait 21 ans que je suis à Forêt. Et j'ai vu malheureusement une grosse dégradation du quartier. Il y a quelques années encore, quand j'étais plus jeune, j'allais à la maison de quartier. C'était vraiment accessible à tout le monde. Les maisons de quartier, il y en avait encore quand même pas mal. Là, malheureusement, il n'en reste plus que deux. C'est devenu un quartier où il y a beaucoup de deals. Et donc, il y a un certain sentiment d'insécurité aussi. Mais beaucoup, beaucoup de jeunes aimeraient que ça change. Donc, je pense que ce bâtiment serait d'une grande aide ici. Parce qu'il manque énormément d'infrastructures, en fait, des bâtiments, des lieux où les jeunes peuvent se retrouver. Il n'y en a pas forcément. Donc, je pense qu'ici, ça pourrait être un bon début. On espère, en tout cas.
Toutes ces friches, ces endroits inutilisés qui sont considérés comme des déchets, c'est une opportunité de les sortir du marché, de les déclarer zones non marchandes, de les déclarer zones à haut impact sociétal. Notre but, c'est de venir faire bouger les lignes en termes de planification, en termes de manière dont on voit la ville, en termes de démocratie citoyenne, en termes d'incapacitation des personnes. Le bâti, c'est un moyen. C'est un moyen pour rassembler des gens, c'est un moyen pour fédérer des communautés, c'est un moyen pour tout un tas de choses. Mais là, derrière, se cache vraiment un enjeu de repenser la manière dont on fait ville ensemble. Je pense que c'est là où il y a le truc d'union à faire avec les communs, dans le sens où personne ne possède un fleuve. Et ce serait idiot que quiconque possède un fleuve. Il y a des ressources qu'on doit partager. Il y a des ressources qu'on doit garantir pour tout le monde. Si on veut vivre dans ce qu'on appelle une démocratie représentative aujourd'hui et un état de droit, surtout, le plus important, que cet état de droit, en fait, soit social.
Donc autant les forces du marché tirent vers une ubérisation plus grande, vers des délocalisations, des villes qui deviennent des attractions touristiques. Bruxelles en fait partie, on n'est pas du tout comme Barcelone non plus ou comme Rome, tu vois, on n'est pas là. Mais donc ces forces du marché existent et elles sont puissantes. De l'autre côté, il y a vraiment l'émergence d'une scène qui existe déjà depuis un moment, hein, mais alternative, et à mon sens, qui doit s'organiser pour justement pouvoir gagner contre ces forces-là. Et là, de nouveau, il ne faut pas se leurrer, c'est au pouvoir public de faire ce travail. Hein. Par contre, le secteur associatif, le secteur de l'économie sociale et solidaire, le secteur des communs, a un travail à faire, je pense, en termes de construction d'imaginaire, en termes de narrative, de montrer, regardez, on peut vivre autrement. Regardez, on pourrait construire la ville comme ça. Et à partir de là, influencer justement les décideurs et les pouvoirs publics pour construire une ville qui s'articule plus autour de ces pratiques communes. Et donc, à terme, aussi de respect de la nature et des questions sociales et démocratiques. Parce qu'on parle d'un changement vers une société plus démocratique, plus sociale et plus écologique. Je pense que le commun, il embrasse exactement ces trois aspects-là.
En fait, la ville pourrait... Enfin, selon moi, la ville doit être un commun. Enfin, la planète, en fait, tout doit... peut être un commun. Ça implique juste énormément de restructurations sociales, économiques, politiques. Mais...
une révolution, quoi, même.
Voilà, c'est à peine ça.
À ce jour, à Bruxelles, au moins 6,5 millions de mètres carrés sont encore vides, un fléau de nos capitales européennes livré à la spéculation immobilière et à la propriété exclusive. Repenser la notion de propriété pour faire place aux jardins partagés, aux semences libres, aux logiciels libres, aux partages équitables et durables des ressources naturelles, c'est aussi ce à quoi nous invite la société civile des communs. Et la semaine prochaine, on s'inscrit encore plus dans la lutte à la découverte des Lentillères, une zone en lutte à Dijon, en France. Merci à Comuna, ses habitants, ses fondateurs, ses militants pour leur accueil et leur énergie. Merci à eux de réenchanter la ville à laquelle il ne faut pas renoncer, même après plusieurs confinements. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary et Sarah Lefebvre, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale.
La marche du monde.